Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. J'aime quand une conversation pour ce podcast se joue dans un lieu insolite. J'aime quand mon invité se prête avec gourmandise au choix d'un lieu qui lui tient particulièrement à cœur. C'est le cas aujourd'hui. Nous sommes, installez-vous avec nous, avec Jean-Paul Thorez. Le ciel est plutôt radieux, une brise légère se fait entendre de temps à autre. Mais on est bien. Nous sommes bien, là, pour parler de biodiversité. Grand sujet que de penser la biodiversité au futur. Avec Jean-Paul, nous parlons de sa banalisation, de la valeur que l'on donne aux êtres vivants, de notre dépendance à nous, humains, aux écosystèmes, du salut par le progrès technique, ou pas, du rôle des territoires aussi, des limites aux principes de compensation, de la demande citoyenne et de risques naturels. Cet épisode, je le précise, est réalisé en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie, dans le cadre de sa COP21 locale. Vous savez maintenant, un accord pour le climat à l'échelle du territoire parce que c'est là, au local, que certaines lignes peuvent être bougées. Mais installez-vous, disais-je. C'est un peu spartiate ici, mais on est bien. Le futur commence ici et maintenant.
Derrière nous, il y a des plants de tomates cerises. Voilà, nous sommes sous une serre, assis sur un paillage. J'aimerais, Jean-Paul, que tu me parles de ce lieu pour commencer.
Alors ce lieu, comme tu l'as suggéré, il est à la fois en ville, puisqu'il y a quand même un petit bruit de fond que peut-être l'auditeur ne perçoit pas, mais on est en ville, on est à Rouen, à la limite de Darnétal, mais on est également à la campagne, puisque comme tu l'as dit, on est dans une serre, donc dans une exploitation maraîchère. Ce lieu, c'est Repinville, donc c'est la campagne, mais c'est aussi un pan de nature, puisque à côté, il y a des sources, il y a des bois, il y a des mares, des zones humides, il y a également des jardins, donc c'est un lieu qui, pour moi, a beaucoup de sens, et un lieu qui est très précieux, très emblématique de la biodiversité. Et puisqu'on est dans le futur, pour moi, c'est un peu un étendard de la biodiversité du futur.
Alors, tu l'as dit, donc c'est un secteur de zone humide en proximité d'agglomération. Et d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle le Champ des Possibles qui développe justement des activités sur ce site.
Oui, alors, il y a même plusieurs associations, puisqu'il y a des jardiniers, ce qu'on appelle les jardins familiaux, donc des jardiniers qui ont leur association. Il y a l'association des Amis du Site Naturel et puis également le Champ des Possibles qui pilote l'agriculture, la production maraîchère bio sur le site également.
Tu as parlé d'un mot important, le mot biodiversité, puisque c'est le thème que tu as choisi pour cette conversation. Avant de se projeter en 2050, j'aimerais comprendre par rapport à ton parcours d'homme, quelle est la place de la biodiversité ?
Elle est centrale, puisque depuis que je suis tout petit, je me suis intéressé aux oiseaux notamment. Donc, je suis ornithologue, naturaliste, plus généralement. Et puis, mon parcours professionnel a fait que je me suis beaucoup intéressé à l'agriculture et au jardinage. Donc, j'ai eu une formation en agronomie. Et tout ça, c'est cohérent avec le fait que maintenant, je me passionne pour la diversité du vivant, c'est-à-dire la biodiversité.
Alors, cette biodiversité, on le sait, aujourd'hui, elle est grandement menacée. On parle de sixième extinction. On parle de plus en plus des sols qui sont malmenés depuis des décennies par l'agriculture, mais aussi par l'urbanisation. Quand tu te projettes en 2050, dans une trentaine d'années, qu'est-ce que tu vois en termes de biodiversité? D'abord, d'un point de vue assez global.
D'un point de vue global, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on va dans le sens qui est actuellement indiqué par les études qui sont menées par les scientifiques. Alors bien sûr, on ne connaît pas tout, mais on a étudié notamment les oiseaux et on voit que pour un certain nombre d'espèces, notamment les oiseaux des espaces agricoles, on a une très grosse chute qui va de diviser par 3 à diviser par 10 selon les espèces. Et ça, c'est le propre des zones agricoles. Et je pense qu'il y a toutes les chances pour que ça continue, plus ou moins. Et comme tu l'as évoqué également, le phénomène d'urbanisation, parce que ça, c'est lié à la croissance démographique. Et cette urbanisation, elle va de pair avec une banalisation, c'est-à-dire de moins en moins d'espèces vivantes, de moins en moins de plantes, de moins en moins d'oiseaux différents, de mammifères différents, d'insectes différents. Et ce qui ne veut pas dire qu'il y aura peu d'oiseaux, peu d'insectes ou peu de plantes, ce sera surtout les mêmes qu'on rencontrera souvent. Hein, donc c'est pour ça que je parle de banalisation. Donc on va, pour moi, dans ce sens-là. Cela dit, il y a aussi la possibilité d'une crise plus forte, c'est-à-dire on peut dire une catastrophe instantanée comme la disparition de pollinisateurs ou des choses comme ça qui peut intervenir très brutalement. Et malheureusement, bon, je suis pas devin, personne ne peut prédire un tel événement, mais l'hypothèse de quelque chose de plus aigus, de plus catastrophiques, et pas exclus.
C'est vrai que la question du climat est de plus en plus dans l'actualité. Il y a eu tout récemment un nouveau rapport du GIEC, ce groupement international des experts sur le climat. Croiser pollution, l'urbanisation et ce réchauffement climatique qui aujourd'hui paraît inéluctable à la hauteur de 2 voire 2,5 degrés d'ici le mi-temps ou la fin du siècle. Est-ce que on ne peut être que pessimiste, comme tu le dis, n'imaginez qu'une crise aiguë, radicale et violente.
Moi, je suis plutôt pessimiste, même si dans l'action, je suis un très grand optimiste, parce que évidemment, ça ne doit pas nous empêcher d'agir. Bon, cela dit, je pense que l'addition de tous ces facteurs dont impacte la biodiversité va pas dans le bon sens. Cela dit, le changement climatique, c'est un élément parmi d'autres. Le souci qu'on a, c'est qu'il est extrêmement rapide par rapport au temps de réaction des êtres vivants. Dans le passé, il y a eu des changements climatiques qui ont induit des changements dans la faune et dans la flore, mais ça s'est passé sur des siècles, voire des millénaires. Là, on est sur des changements importants dans les dernières décennies. Donc, c'est pas du tout le même rythme. Cela dit, si on y ajoute l'impact des pollutions, si on y ajoute la disparition des sols, des terres naturelles par l'urbanisation, on a ce qu'on appelle une synergie, c'est-à-dire des facteurs qui agissent les uns avec les autres en s'amplifiant éventuellement. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est comme dans l'effet des médicaments qu'on prend ensemble, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, ce cocktail. En tout cas, moi, ça m'inquiète. Je pense que je ne suis pas tout seul. Tous les écologues ou les naturalistes, d'une manière générale, sont inquiets.
Et en même temps, j'ai pu lire dernièrement un article qui expliquait qu'on ne connaissait qu'une petite part encore de certaines biodiversités, que ça soit celle pour partie du fond des océans ou de certains écosystèmes éloignés. Donc finalement, la biodiversité, c'est peut-être celle que l'on connaît aujourd'hui qui prend un coup, mais c'est une autre aussi qui reste à découvrir et qui pourra se développer dans un nouveau contexte. Je me fais l'avocat du diable.
Alors effectivement, on ne connaît qu'une petite part de la biodiversité. Cela dit, enfin, je peux pas m'empêcher de penser que ce qui influe sur la partie qu'on voit influe également sur la partie qu'on ne voit pas. Bon, il y a des tas de pans de la biodiversité qu'on connaît pas du tout, beaucoup moins, effectivement, tu l'as dit, le fond des océans, mais je pense au sol. Le sol, on en parle de plus en plus, on l'étudie d'un point de vue agronomique, mais d'un point de vue de la biodiversité, on est loin de tout connaître. Je pense que faut pas non plus rêver, c'est pas de nouvelles espèces qui vont sortir de la partie qu'on ne connaît pas, hein. Non, je pense que toute la biodiversité dans son ensemble est impactée. Et on a étudié évidemment ce qu'on voit. On voit les oiseaux, on voit la flore. Bon, on connaît moins les micro-organismes, on connaît moins les petits insectes qu'il y a dans la litière des forêts équatoriales. Mais je pense que ces êtres vivants sont également fortement impactés.
Alors, tu as parlé des pollinisateurs tout à l'heure. Il y a un être vivant que justement on voit de moins en moins, les abeilles. Là aussi, les alertes ont été lancées, fortes, et pour autant, la situation n'est pas radicalement changée. Les abeilles, on a pu, alors les économistes ont commencé à valoriser en termes d'euros, de millions d'euros, l'apport des abeilles, mais aussi de la biodiversité. Est-ce que en 2050, c'est comme ça qu'on pourra approcher la biodiversité par sa valeur en espèces sonnantes et trébuchantes qui pourrait permettre de mieux la préserver?
Alors c'est une des pistes évidemment qui sont explorées, hein, c'est de donner une valeur aux êtres vivants. Les faits prouvent qu'effectivement le levier économique est souvent déterminant pour faire agir les êtres humains. S'il y a du cash à la clé, ça peut motiver ou pas, ou à l'inverse pas du tout. L'abeille, c'est une sentinelle, hein, y a pas que l'abeille qui est impactée évidemment. C'est une sentinelle parce que c'est à la fois un animal sauvage, parce qu'on l'a pas vraiment domestiqué, mais on l'exploite. Donc on la connaît bien. Et en plus, on en tire un certain revenu. C'est ce côté-là qui fait qu'on s'intéresse beaucoup à elle. Bon, derrière l'abeille, il y a tous les autres insectes, les abeilles sauvages, les bourdons, les insectes pollinisateurs, ceux qui vont aider à la reproduction des végétaux, mais également tous les autres qui ont une fonction dans le recyclage de nos déchets, dans la fabrication d'oxygène, enfin toutes les fonctions associées à la nature. Effectivement, on peut se dire on va affecter un chiffre à ces fonctions. Bon, jusqu'à présent ça n'a pas trop marché encore. Donc j'en tiendrai plutôt sur un discours un petit peu pragmatique. C'est pas très compliqué de se dire on a besoin de tout ça, on va faire un effort collectif pour maintenir ce qui permet à l'humanité de survivre, hein, parce que la nature s'en tirera, mais nous, on n'aura peut-être pas cette chance.
Oui, finalement, la question ou le levier de réaction le plus fort, c'est celui-là, parce que la planète, quel que soit l'état dans lequel l'espèce humaine est en train de la mettre, dans tous les cas, la planète restera. C'est plus la question de la place de l'espèce humaine dans tout ça.
Bien sûr, la planète a des ressources pour se régénérer, enfin pour éliminer tout un tas de choses. L'être humain, il est tellement dépendant des écosystèmes et d'autres êtres vivants que s'il coupe un certain nombre de liens avec cette nature qui l'a fait vivre, je donne pas cher de sa peau, et c'est pas les fantasmes d'aller coloniser d'autres espaces, voire intersidéraux ou autres, que enfin ça c'est une façon de perdre du temps, et pour moi ça n'a pas grand intérêt. En fait, on sait ce qu'il faut faire. Je dirais que maintenant on a une chance maintenant, c'est que on sait à peu près ces choses-là. On sait que sans pollinisateurs, il va nous manquer beaucoup de production agricole. On sait que sans recyclage de nos déchets, ça fonctionnera beaucoup moins. On a besoin d'eau pure. Donc sans être vivant, on n'aura pas d'eau pure. Sans être vivant, on aura moins d'air pur. Donc tout ça, c'est des faits connus. Bon, maintenant, c'est une affaire de volonté des uns et des autres, et notamment au niveau politique, à l'échelle locale ou à l'échelle beaucoup plus globale.
Si on regarde toujours dans ce monde de 2050, est-ce que tu arrives à te projeter dans un monde où finalement la biodiversité ne sera plus qu'une affaire d'espace sous cloche, de parcs naturels, et puis en dehors de ces espaces qui deviendront quasiment des musées en fait d'une certaine biodiversité, qu'on arrive à organiser une vie sans cette biodiversité du quotidien?
Je crains que tu n'aies raison. Je parlais de banalisation, donc ce phénomène, il est un peu inéluctable et il va concerner forcément des surfaces très importantes, les surfaces agricoles, également les surfaces urbaines et périurbaines. Mais à côté de ces espaces donc appauvris, on est tout à fait capable, dans une certaine mesure, de conserver des oasis, des cœurs de nature, appelons ça comme on veut, où il y aurait une certaine biodiversité avec des espèces patrimoniales, des espèces spectaculaires, des jolis papillons, des jolies orchidées, des lieux qui seront fréquentés pour le loisir, qui intéresseront les scientifiques. Mais moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresserait, c'est que on remette de la biodiversité partout où on est. y compris dans les zones agricoles, y compris en ville, y compris en périurbain, plus que, comme tu disais, des réserves.
Alors, je ne sais pas si tu es technophile, mais je lisais là encore récemment un article où des abeilles qui seraient en fait des petits robots entre le drone et le robot pour la pollinisation, des solutions aussi technologiques autour de l'agriculture urbaine, où on parle de ces fermes verticales, de l'aquaponie, etc. Est-ce que ça, pour toi, ce sont des pistes viables où on reste sur du domaine de l'expérimentation, du gadget, et que ces réponses-là, du progrès technique, ne sont pas à la hauteur des vraies réalités?
Alors, le progrès technique, comme tout le monde, j'y crois. Hein, simplement, ce dont tu viens de parler, pour moi, c'est les gadgets. L'agriculture sur des murs en ville, à petite échelle, etc., en plein centre-ville, avec grand renfort d'énergie, d'eau, pour moi c'est du gadget, et encore plus la pollinisation par des petits robots, etc. On s'amuse beaucoup en ce moment avec ça, parce que l'intelligence artificielle est à la mode, que les drones ont fait irruption dans notre environnement. On n'est pas là d'imiter les processus naturels pour assurer la vie d'un être vivant comme l'homme. Hein, on n'est pas hors sol, je pense qu'on le sera jamais. Enfin, pas d'ici 2050 en tout cas. Et donc, on a encore fortement besoin de sol, de végétaux et d'animaux.
Pour éviter ce futur d'une biodiversité que je qualifierais de muséale, hein, en quelque sorte, quel chemin il faut prendre ? Aujourd'hui, si on se rencontre, Jean-Paul, c'est aussi dans le cadre de la démarche de la métropole Rouen-Normandie de COP21 locale. Est-ce que si les grandes métropoles ou les territoires de taille intermédiaire, ceux qui ressemblent un peu à ici, s'engageaient sur ce type de démarche, le pari de préserver la biodiversité telle que tu l'as décrit, celle du quotidien partout, peut être relevé ? Ou là encore, on est encore dans cette fameuse légende du colibri, mais à un moment, le colibri, c'est bien gentil, c'est bien toutes les gouttes d'eau, mais ça, l'océan, il n'est pas encore là.
Les collectivités, enfin, disons, les territoires, plus généralement, ça me semble quand même être la bonne échelle. Quand je regarde ce qui se fait dans une métropole comme celle de Rouen, qui est très urbaine, mais également rurale dans sa périphérie, ça me semble aller dans le bon sens. Ce que j'observe, c'est que on a fait de la gestion différenciée dans l'espace public, c'est-à-dire que on a banni les pesticides pour éliminer ce qu'on appelait les mauvaises herbes, qui est une source de biodiversité. Donc ça, c'est en train d'être fait, ça va rentrer dans les mœurs. Une métropole comme celle de Rouen s'occupe de ses mares, d'après ce que j'ai compris, et s'occupe assez bien aussi de ses forêts. J'observe que ça va dans le bon sens, qu'il y a également de la pédagogie qui est faite. Je vois le travail qui est fait avec les jardins familiaux, puisqu'ici à Repainville, il y a aussi des jardins familiaux. Il y a de la pédagogie qui a été faite pour que les jardiniers adoptent des bonnes pratiques, soient sensibles à la biodiversité, etc. J'y ai contribué à la demande de la métropole. Donc là, ce travail, il existe. Je pense qu'il va être poursuivi. Je pense que le fait que ce type de collectivité soit relativement jeune, ça a permis d'y faire rentrer des techniciens qui sont jeunes, qui ont une autre approche que peut-être dans certaines communes. Il y a une vision assez progressiste. Bon, cela dit, il y a encore certainement des choses à faire. Et je pense que l'effort qui reste à faire, ça va être plus ou moins de sanctuariser les rares espaces qui sont encore un petit peu préservés à l'intérieur de cette métropole. Bon, Repainville, ça a été le cas, hein, mais ça n'a pas été simple. On aurait, là, à l'endroit où on est, il pourrait y avoir un Castorama. Bon, je cite une marque, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre grande surface. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu un combat très rude qui a été remporté par des gens qui défendaient cette approche, dont moi, déjà, à l'époque. Maintenant, il y a d'autres espaces qui mériteraient également de l'attention. Les rares espaces qui sont encore agricoles ou naturels dans la métropole, pour moi, il faut vraiment les sanctuariser. Et c'est pas des mesures de compensation qui vont permettre de corriger cette tendance. On remplace pas un milieu déjà naturellement riche, ancien, avec des vieux arbres par exemple, par une autre surface qu'on va dire de compensation. Ça marche assez mal. On a plutôt intérêt à conserver l'existant, à le gérer, à le restaurer, à le faire vivre.
Alors ces espaces qu'il faut sanctuariser, préserver dans ces périphéries ou même au cœur de ces territoires, ces métropoles, la biodiversité, c'est le sol. Ça, on parle d'un sol, toujours. Et le problème, c'est que le sol, souvent, dans les territoires, il est plutôt perçu comme du foncier. Et le foncier, on revient à cette question de valeur, il a une valeur, parfois une valeur agricole, une valeur aussi pour des promoteurs. Comment on est-ce que tu penses que ce pari face au lobby, on pourrait dire ça, même localement, il peut être gagné? La volonté politique, elle va être suffisante pour ça?
Alors, il y a une concurrence pour les usages, hein, ça c'est clair. Et ça demande effectivement énormément de volonté politique. Dans d'autres, souvent je fais un parallèle avec d'autres cas. Je pense à l'estuaire de la Seine, où il y a eu une grande réserve naturelle créée, là où il y a des enjeux très forts en termes d'activités portuaires, de chasse et autres, à l'échelle des agglomérations. À Rouen notamment, il y a également des concurrences pour l'usage des sols, il y a une certaine pression pour de l'immobilier. Après, il y a des choix qui doivent être faits par le pouvoir politique. J'ai cru comprendre que les besoins en termes de logement, de construction, etc., étaient largement pourvus. Hein. Disons qu'on n'avait pas besoin démesuré de bâtir, de continuer à bâtir, et que donc on pouvait donner la priorité à d'autres activités agricoles, naturelles et autres. Et donc ça se décide sur le plan politique. Il faut éventuellement inscrire dans les faits les dispositifs qui ont été adoptés. Je sais pas, la trame verte et bleue qui a été pondue il y a quelques années au niveau régional, adopté par la métropole et des grandes collectivités. La relocalisation de la production alimentaire, c'est un grand sujet actuellement. Eh ben, faut la faire entrer dans les faits. Alors évidemment, il va falloir à un moment donné faire des choix et ne plus valider, par exemple, des choix d'aménagement pour des logements, et plutôt privilégier l'installation d'agriculteurs, voire la création d'espaces naturels dédiés aux loisirs ou simple fait de donner de l'espace. Voilà, donc c'est des choix politiques.
Tout au long de ta carrière, tu as à la fois sensibilisé les acteurs, qu'ils soient collectivités, mais aussi le public. Tu as accompagné des démarches de projets. Est-ce que tu as le sentiment que là aussi, les attentes citoyennes ont évolué et qu'elles sont prêtes à réclamer ou à accompagner ces prises de position, ces choix politiques qui peuvent, si on prend un exemple, je sais pas, j'habite à tel endroit, on me propose qu'il y ait une école qui soit construite sur un champ, ça tombe bien, je viens de m'installer avec mes deux enfants, et ben ça m'arrangerait bien, et de se dire, on va faire peut-être quelques kilomètres de plus parce que la biodiversité, c'est elle qui doit avoir la priorité.
Bien sûr, enfin ça va jamais de soi. On n'est pas dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que si on va, on risque de mécontenter un certain nombre de personnes ponctuellement. Mais si on voit les choses globalement, je pense que les attentes de la société, elles ont évolué. Pour moi, elles ont évolué dans le bon sens. Je commence à avoir assez d'heures de vol pour pouvoir me rendre compte que les mentalités ont évolué. Ça veut pas dire que le syndrome NIMBY, c'est-à-dire moi je veux bien telle ou telle chose, mais pas à côté de chez moi. Je veux bien des espaces naturels, mais si je peux avoir plutôt à côté de chez moi des commerces ou une école, ça c'est effectivement des contradictions. D'un point de vue global, je pense que la société... maintenant, en France, c'est peut-être différent sur d'autres continents, mais en tout cas en France ou en Europe occidentale, ça évolue dans ce sens.
Et puis, alors, on n'a pas le temps forcément de l'aborder, mais préserver la biodiversité, c'est aussi se donner les moyens de mieux lutter contre des phénomènes météorologiques violents. Il y a quelques jours, l'actualité avec ce qui s'est passé dans l'Aude, on a vu des conséquences vraiment graves d'inondations. Et c'est vrai que préserver la biodiversité, par incidence, c'est aussi plus d'espace naturel pour absorber les eaux, etc. Donc, c'est aussi une dimension peut-être qui peut parler largement aux gens.
Absolument. Et tu fais bien d'aborder cette question des risques naturels. C'est un sujet qui concerne les Normands, à peu près autant que les gens de l'Aude. Et ça me permet de défendre une idée que à laquelle je pense depuis longtemps, c'est que la biodiversité, c'est pas du tout contradictoire avec un certain aménagement du territoire. Et pour lutter contre ce qu'on appelle les risques naturels, notamment les inondations, on est amené à faire à aménager le territoire. On peut le faire de différentes manières, mais il existe des techniques, ce qu'on appelle l'hydraulique douce, qui consiste à faire des mares, des bassins, des noues, des fossés, de planter des haies, etc. Et les collectivités en Normandie ont largement investi dans ce domaine-là. Hein, le paysage a changé un petit peu. Et l'idée que je défends, c'est que quand on fait ce genre d'aménagement, ou même quand on fait d'autres aménagements comme un rond-point ou même un parking, par exemple, on peut y adjoindre une dimension biodiversité. C'est-à-dire que on peut planter des arbres, des arbustes en pensant abeilles, en pensant oiseaux, etc. Quand on fait des fossés ou des bassins, pourquoi ne pas penser faune et flore aquatique ? Et on va pas forcément travailler la biodiversité pour la biodiversité, mais elle a travaillé parallèlement à d'autres choses qu'on est obligé de travailler.
Donc oui, un parking, c'est pas forcément du bitume.
Un parking, ça peut être un matériau qui laisse passer l'eau, qui permet aussi une végétalisation, des arbres avec une cuvette pour infiltrer l'eau, etc. Alors qu'on voit actuellement des parkings qui sont complètement imperméables, des arbres qui peuvent même pas être alimentés en eau par l'eau qui tombe sur le parking, et puis résultat aussi des ruissellements accrus parce que les surfaces imperméabilisées, c'est une catastrophe. Hein. Et face aux épisodes catastrophiques, des pluies catastrophiques qu'on peut malheureusement pas empêcher, il faut aménager le territoire pour que résister mieux. Et la biodiversité, c'est pas contradictoire avec ça.
Et ce que j'entends aussi dans tes derniers propos, c'est de se dire que finalement, la biodiversité, c'est un sujet transversal qui devrait être intégré dans n'importe quelle politique publique finalement.
Voilà. C'est pour ça que c'est pas l'affaire d'un ministre de l'écologie ou de l'environnement. Il devrait y avoir de la biodiversité dans tous les ministères, dans tous les conseils municipaux, dans les bureaux techniques, dans les écoles. Il y a toujours une dimension qui peut être abordée, traitée. Et c'est pas du tout une affaire de spécialistes. Ce qu'il faut, c'est que ce sujet soit approprié par les gens. Ça peut être les jardiniers, ça peut être les professionnels, les agriculteurs. Chacun peut faire quelque chose à son échelle.
Pour conclure cette conversation, Jean-Paul, il est de coutume que je demande à mon invité de formuler un vœu en pensant à 2050. Donc pour ce 2050, pour éviter cette biodiversité de musée, où il faudrait réinventer une gouvernance pour que la biodiversité reprenne toute sa place, quel est ton vœu ?
Mon vœu, c'est que si je pouvais survivre jusqu'à cette date, ce qui est loin d'être assuré, j'aimerais bien qu'à cette date, on voit tout d'un coup les populations d'hirondelles remonter, les populations d'alouettes, qui est un oiseau des champs que tout le monde connaît, même si on le voit pas, on l'entend chanter, c'est l'oiseau emblématique des campagnes françaises depuis les Gaulois. Puis l'hirondelle, c'est la compagne de l'homme depuis les cavernes, et ces oiseaux sont en chute libre. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait réussi d'ici 2050 à inverser la tendance. Et en fait, si je donne ces exemples, c'est parce que je pense qu'on peut le faire.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour cette conversation.
Merci.
Pour vous, quelle est la bonne échelle pour préserver notre biodiversité ? Est-on déjà allé trop loin dans sa destruction ? En 2050, qu'aimeriez-vous voir autour de vous ? Une belle orchidée ? Ou des coquelicots bien rouges au milieu des blés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, vous savez où me trouver. J'en viens à la rengaine des étoiles sur iTunes. J'ai réalisé, il y a peu, que je me trompais. Y laisser des étoiles et un commentaire, ce n'est pas pour me faire plaisir. D'ailleurs, vous n'avez aucune raison de vouloir me faire plaisir. La vraie raison, et la seule qui vaille la peine, c'est de permettre à ce podcast d'être plus visible, et donc de permettre à plus de paires d'oreilles de l'écouter, et ce faisant de contribuer, tout petitement, aux prises de conscience sur nos futurs possibles. Car finalement, quel que soit le thème abordé ensemble, la question reste la même. Quel chemin choisissons-nous ? Merci à Jean-Paul, merci aux chants d'alouettes et d'hirondelles qui ont accompagné son vœu comme une promesse de repeupler nos cieux et nos champs. Merci à vous pour votre écoute. Je vous laisse et vous promets de revenir vite. D'ici là, soyons toujours curieux.